Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes définitivement abandonné. Dans ce journal, les réactions des zadistes et des pro-aéroports. L'analyse politique de Stéphane Robert et un point avec Marie Viennot sur la question de l'indemnisation du groupe Vinci. Mathieu Gallet peut-il rester à la tête de Radio France malgré sa condamnation? Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ouvre une procédure et annoncera sa décision dans les prochaines semaines. Première séance du Parlement de Catalogne depuis les élections régionales et première étape pour les séparatistes, l'élection de l'un des leurs à la tête du Parlement. Le pape François enterre Mapuche, il appelle les indigènes chiliens à choisir d'autres moyens que la violence pour faire entendre leurs revendications. Le projet de construire un nouvel aéroport pour les régions Bretagne et Pays de Loire remonte à 1965 et le choix du site de Notre-Dame-des-Landes avait été validé en 1970. À l'issue d'un très long feuilleton donc, le projet est définitivement enterré. Édouard Philippe l'a confirmé à l'issue du Conseil des ministres.
Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un tel projet d'aménagement, qui structure un territoire pour un siècle, ne peut se faire dans un contexte d'opposition exacerbée entre deux parties presque égales de la population. Les grands projets qui ont réussi dans les années récentes, qu'il s'agisse du viaduc de Millau, de la route Airbus entre Bordeaux et Toulouse, ou des lignes ferroviaires à grande vitesse à Nantes, à Rennes, à Bordeaux et ailleurs, se sont tous réalisés malgré des oppositions locales, parce qu'ils étaient largement portés et acceptés par la population. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, je le constate, c'est l'aéroport de la division.
L'alternative à cet aéroport de la division, pour reprendre les mots du Premier ministre, c'est un réaménagement de l'actuel aéroport Nantes-Atlantique qui sera modernisé et dont la piste sera allongée. Les premiers aménagements pourraient commencer rapidement, d'après Édouard Philippe, et il assure que Brest, Nantes et Rennes disposeront de liaisons faciles avec les autres métropoles européennes. Le chef du gouvernement prévient par ailleurs qu'il ne doit plus y avoir de zone de non-droit. Les trois routes qui traversent le site doivent être rendues à la libre circulation pour tous. Quant aux opposants au projet d'aéroport qui se sont installés là. Ils ont jusqu'au printemps pour s'en aller. Véronique Rebérotte, vous êtes sur le site de Notre-Dame-des-Landes et pour les zadistes, c'est un immense soulagement.
Oui, des zadistes qui se tombent dans la... Ils s'embrassent, ils applaudissent, ils chantent aussi. Ils ont quand même du mal un peu à réaliser au tout début qu'ils viennent d'obtenir cette victoire si dure, si difficile, si longue à obtenir. Orwell est un zadiste installé plusieurs années, il n'en revient pas.
Ils ont cédé sur le fait qu'il n'y aurait pas d'expulsion là imminente, ils ont cédé sur tous les points, c'est vraiment une réussite là, c'est une grande victoire pour le mouvement. J'ai oui, mais à la fois c'est pas fini parce qu'on sait que derrière on a la normalisation qui viendra et que probablement quand ils disent qu'ils vont reconfier les terres à l'agriculture, ce sera probablement via la SAFER et ce genre d'organisme, donc on n'est pas sorti de l'auberge, mais on a quand même gagné la première partie de la lutte et bon, maintenant je pense qu'on va prendre un bon gros temps pour fêter ça quoi.
Alors Macky, dans sa voiture, a entendu aussi lui le Premier ministre Édouard Philippe annoncer la fin de Notre-Dame-des-Landes. Cet ex-ingénieur qui s'est installé dans la ZAD depuis maintenant une dizaine d'années vit quand même ici ses dernières heures.
Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné.
Très content. Nous avons sauvé 1650 hectares. Ça, c'est très important. Je ne m'attendais pas à cette victoire. Je crois que le gouvernement a bien compris que il faut aujourd'hui sauver la planète. Moi, j'abandonne. Ça y est, c'est terminé. Je serai zadiste ailleurs sur un autre projet. Et toujours pour sauver la planète.
Voilà, Julien Durand, opposant historique, a une pensée, a-t-il dit, pour tous ceux qui avaient combattu contre ces aéroports. Ils ne sont plus là aujourd'hui pour voir ce dénouement heureux. Lui n'est pas totalement soulagé pour la suite. Il appelle au calme, notamment lors des manifestations ce soir. Julien Durand.
C'est le bonheur tout court. On doit quand même être assez satisfait globalement et il reste du travail à faire, mais ça, on s'y attendait. Donc, on a les cartes en main. Et j'appelle encore ce soir les rassemblements à être dans la conciliation, un esprit constructif pour demain et qu'il faut savoir garder son sang-froid. L'avenir de la ZAD à court terme, il se joue peut-être ce soir aussi dans la rue. Donc, sachons en être dignes. Aujourd'hui, ne gâchons pas la victoire et la décision. Donc, courage pour demain.
Voilà, la prochaine étape, en tout cas demain, c'est libérer très vite les routes de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est ce qu'a demandé aussi le Premier ministre. Le mouvement s'engage à le faire très rapidement.
Véronique Rebérotte, les élus de la région eux parlent de trahison. Pour l'ancien Premier ministre et ex-maire PS de Nantes, Jean-Marc Ayrault, c'est un déni de démocratie et une faille dans le développement du Grand Ouest dont les besoins sont sans solution. Bruno Retailleau, ancien président de la région des Pays de la Loire, chef de file des sénateurs Les Républicains, ne décolère pas. C'est un tournant pour M. Macron dont le quinquennat vient de s'abîmer dans la boue de Notre-Dame-des-Landes, écrit-il. À l'Assemblée à Paris, le député Les Républicains de l'Ain, Damien Abad, est lui aussi très sévère pour le gouvernement.
C'est un coup d'épée pour l'autorité de l'État. C'est le non-respect de la parole donnée, à la fois du président de la République, qui s'était engagé dans la campagne à faire ce projet. C'est le non-respect aussi de la parole des Français qui se sont exprimés lors d'un référendum. Et c'est l'autorité de l'État qui est bafouée et piétinée, parce qu'on n'a pas à subir les coups de foudre des zadistes. Je pense que c'est un recul de la République par rapport aux zadistes, et je trouve ça regrettable. Parce qu'aujourd'hui, ils obtiennent gain de cause. Aujourd'hui, on renonce, on capitule et que donc forcément, ça va créer des appétits. Il y a déjà une cinquantaine de ZAD en France et donc forcément, sur d'autres projets, on aura la même situation. Je pense que la République ne peut pas être prise en otage par des minorités agissantes. La République ne peut pas être prise en otage par celles et ceux qui se mettent hors des lois de la République. Il y a des grands projets. La France est un grand pays qui a besoin de ces grands projets d'infrastructure pour désenclaver les territoires. Parce que là, c'est un coup aussi qu'on porte à la France des territoires, à la question du désenclavement, des projets d'infrastructure. Si on avait raisonné comme ça il y a 20 ans ou 30 ans, on n'aurait pas eu le TGV en France. Et c'est quand même un enjeu de société très important.
Damien Abad au micro de Ludovic Piétenu. Mais à l'Assemblée où vous vous êtes rendu, Stéphane Robert, les Républicains sont les seuls à critiquer avec autant de virulence la décision du gouvernement. Il y a bien sûr quelques pics de la part du Front National, mais sur le fond, le FN ne défendait pas le projet d'aéroport. À gauche, les réactions sont positives et les écologistes sont aux anges. Aujourd'hui, c'est une belle victoire politique pour Nicolas Hulot.
Oui, pour Nicolas Hulot, on peut dire que c'est une pierre dans son jardin. En novembre dernier, il avait été contraint d'annoncer lui-même le report des engagements sur le nucléaire. Pas de réduction à 50% d'ici 2025. Le ministre de l'Environnement avait alors été accusé d'avaler de grosses couleuvres. Là, il peut s'enorgueillir d'avoir été écouté et de faire valoir que finalement, il n'est pas si inutile que ça à la place où il est. Et au-delà de Nicolas Hulot, vous l'avez dit, c'est tout le camp écologiste qui se félicite de cette décision. Yannick Jadot, Delphine Bateau, Pascal Canfin, tout ce que la gauche compte d'écologistes salue cet après-midi, le choix qui a été fait. Mais ce n'est pas un choix qui vise à simplement donner des gages à la gauche et aux écologistes. C'est un choix qui se veut être un entre-deux, un en même temps, si cher à Emmanuel Macron. D'un côté, on abandonne le projet, mais de l'autre, il faut que les zadistes s'en aillent. On va rétablir l'état de droit, a dit tout à l'heure le Premier ministre, dans une attitude très ferme. Et si les squatteurs ne s'en vont pas de même, a promis Édouard Philippe, ce sont les CRS qui s'en chargeront. Ce discours sécuritaire permet d'anticiper les critiques à droite et vise à désamorcer les accusations en recul et en laxisme qu'on vient d'entendre, notamment avec Damien Abad. La question désormais est... est-ce que la deuxième partie du plan va pouvoir s'appliquer comme l'exécutif l'a envisagé, à savoir l'évacuation des zadistes? Le risque, évidemment, c'est un nouveau Civin, c'est de nouvelles violences. Mais l'atout du gouvernement, cette fois, est que les zadistes ne disposent plus de légitimité pour rester sur le site. Ils ne peuvent plus brandir ce slogan « Non à l'aéroport ». On verra comment ça se passe au printemps, puisqu'Édouard Philippe leur a donné jusqu'à fin mars pour s'en aller.
Stéphane Robert, l'abandon du projet d'aéroport aura des répercussions économiques. Il faudra notamment indemniser le groupe Vinci, qui avait signé fin 2010 un contrat de 55 ans, couvrant notamment la construction du nouvel aéroport. Le montant évoqué pour l'indemnisation, 350 millions d'euros, est contesté par le ministre des Relations avec le Parlement, Christophe Castaner. Comment est-ce qu'on s'y prend, Marie Viennot, pour calculer le montant?
Eh bien, pour connaître le montant d'indemnisation, il faut lire le contrat qui lie Vinci et l'État, ce qu'a pu faire un collectif citoyen selon qui l'indemnisation serait plutôt de 150 à 250 millions d'euros. Alors, pourquoi une telle fourchette? Parce qu'il y a dans ce contrat une partie assez claire, une autre qui dépend de montants qui ne sont connus que par Vinci et une autre qui relève de la négociation. La partie claire, c'est celle qui concerne la compensation par l'État des sommes qui auraient été gagnées par Vinci s'il avait pu exploiter l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. La partie inconnue, ce sont les montants que Vinci a déjà investis en études ou les sommes que l'entreprise devra débourser elle-même pour résilier des contrats qu'elle a pu passer avec des sous-traitants. Voilà pourquoi on ne sait pas dire aujourd'hui quelle devait être précisément l'indemnisation puisqu'on ne connaît pas ces montants. Troisième partie, les bénéfices de l'aéroport de Nantes-Atlantique, celui qui devait être remplacé, qui ont été mis de côté depuis la signature du contrat entre Vinci et l'État. Selon l'atelier citoyen, qui a été consultés par les médiateurs qui ont rendu leur rapport en décembre, il y a 100 millions d'euros mis de côté. 100 millions qui devaient servir à financer la construction de Notre-Dame-de-Landes. Que devient cet argent désormais? Peut-il venir en déduction de l'indemnisation de l'État ou pas? Eh bien, c'est à voir. Négociation donc il va y avoir. Voilà pourquoi Vinci se dit dès aujourd'hui à la disposition de l'État pour fournir les chiffres manquants, mais aussi donc pour négocier, car ce groupe qui gère parking, autoroutes et chantiers peut avoir de multiples attentes vis-à-vis de l'État.
Merci Marie Viennot. À 22h, Jacques Auxiette, ancien président socialiste de la région Pays de la Loire, sera l'invité de Stanislas Vazac pour revenir sur ce dossier sensible de Notre-Dame-des-Landes. Pour l'instant, penchons-nous sur les péages urbains, car dans un entretien au journal Les Échos, la ministre des Transports affirme vouloir favoriser l'apparition des péages urbains dans l'Hexagone à l'entrée des grandes métropoles. Pour Elisabeth Borne, un tel dispositif pourrait diminuer les embouteillages et la pollution. Alors Hakim Kasmi a joint Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale de transporteurs routiers, et elle s'inquiète de ce projet.
Une taxe qui serait fixée serait finalement une double peine. Je rappelle que quand l'écotaxe a été abandonnée en 2014, en fait, elle a été convertie en une majoration de la fiscalité du carburant. Ce qui fait que nous payons 4 centimes de plus sur notre fiscalité, sur lequel d'ailleurs, je précise, nous n'avons pas la ristourne dont bénéficient les transporteurs. Donc, avec l'ensemble des sommes récoltées qui avoisinent les 450 millions d'euros, on estime qu'il y a de quoi financer les infrastructures. Plus globalement, il faut savoir que l'ensemble des usagers de la route, que ce soit les poids lourds ou les voitures, rapportent 39 milliards d'euros à l'État. Et on se demande bien pourquoi, avec 39 milliards d'euros, on n'arrive pas à financer les infrastructures.
Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec cette taxe, cela va encore plus vous fragiliser par rapport à vos concurrents espagnols, polonais, portugais ?
Bien entendu, les marges du transport routier sont toujours extrêmement faibles, car même si on constate une reprise d'activité, il faut constater que les prix de transport ne remontent pas. Et globalement, même si la ministre à chaque fois indique qu'elle veut cibler les transporteurs étrangers plus que les Français, les étrangers prennent plus souvent l'autoroute que les Français et donc seraient moins soumis à cette taxe qui est prévue d'être appliquée sur le réseau non concédé, c'est-à-dire hors péage. Par ailleurs, de par les traités de l'Union européenne, il est interdit de taxer les non-résidents sans taxer les résidents. Donc à chaque fois que l'on voudra créer une taxe, ce sera d'abord les transporteurs français qui devront la quitter.
Florence Berthelot de la Fédération nationale des transporteurs routiers. L'avenir de Mathieu Geller reste en suspens. Condamné pour favoritisme pour des contrats passés lorsqu'il dirigeait l'INA, l'actuel patron de Radio France a aussitôt fait appel et refusé de démissionner. Il n'a pas cédé à la pression de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, et c'est donc maintenant au CSA de trancher. Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel se sont donc réunis aujourd'hui, Eric Chavroux, et ils ont annoncé l'ouverture d'une procédure qui pourrait, ou pas, conduire à son éviction.
Avec l'ouverture de cette procédure, le CSA se donne du temps. On ne sait rien des débats de ce matin, mais ils permettent au régulateur de poser son autorité et son indépendance. Au lendemain d'une vive condamnation de Mathieu Gallet par la ministre de la Culture, pilotée d'après beaucoup de Matignon et de l'Élysée, le CSA ne paraît ainsi pas aux ordres de l'exécutif et donne au moins l'impression d'une décision souveraine. Cette procédure contradictoire inédite pour un PDG de l'audiovisuel public devrait durer quelques semaines, voire s'achever dès la semaine prochaine, d'après nos confrères du Monde. Sur la base d'un dossier ou en recevant personnellement Mathieu Gallet ou ses représentants, et avec la possibilité de s'appuyer sur d'autres témoignages comme ceux de syndicats. Mais comme le stipule le court communiqué du CSA, la transmission du jugement par le tribunal de Créteil est indispensable. Or, l'avocat de Mathieu Gallet estime que cela pourrait prendre du temps. Maître Christophe Ingrin, qui se dit rassuré pour son client d'entrer dans un débat désormais serein, on sort d'un champ de la pression et de la rumeur pour rentrer dans quelque chose d'encadré, respectueux des droits, nous a-t-il confié. Le CSA, lui, se refuse à tout commentaire et respecte scrupuleusement le secret de l'instruction pour éviter toute attaque ensuite devant le Conseil d'État. Il semble jusqu'ici ne pas tenir compte de l'appel suspensif de Mathieu Gallet qui éviterait sa destitution et les sages s'appuient sur un article de la loi Léotard de 1986 instauré en 2013 qui leur donne le pouvoir de révoquer les dirigeants du service public audiovisuel par décision motivée et à la majorité des voix. Aucune nouvelle réaction politique d'importance n'a suivi cette annonce. Mais hier, la ministre Françoise Nyssen déclarait à l'AFP que cette condamnation en première instance de Mathieu Gallet plaidait pour une loi sur l'audiovisuel public déposée rapidement. Emmanuel Macron, qui accélère le calendrier des réformes, a fixé la fin de l'année, alors que le mandat du PDG de Radio France doit normalement s'achever en mai de l'année prochaine.
Éric Chavroux. Séance inaugurale du nouveau Parlement de Catalogne. C'était sa première réunion depuis les élections régionales du 21 décembre. Le camp sécessionniste part à la reconquête du pouvoir régional. Et c'est un séparatiste qui a été placé à la tête du Parlement catalan. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Aurélie.
Mais la situation reste particulière puisque 3 députés sont en détention provisoire et 5 autres, dont Carles Puigdemont, en exil volontaire à Bruxelles.
Dehors, une foule hérissée de drapeaux indépendantistes suit la séance inaugurale diffusée sur des écrans géants. À l'intérieur, des rubans jaunes sur les sièges des députés, élus mais absents car ils sont en prison ou en exil, et des mots très durs contre Madrid prononcés par le doyen du Parlement. Ouvrant la session, il accuse l'État espagnol de refuser toute réconciliation. L'État espagnol ne sait pas gagner, lance-t-il, il ne sait que vaincre, il ne sait pas partager, il ne sait qu'humilier. On pourrait croire que la Catalogne rejoue une pièce déjà vue de confrontation avec Madrid, mais les temps ont bien changé depuis la déclaration unilatérale d'indépendance à l'automne dernier. Certes, les partis indépendantistes ont remporté les élections du 21 décembre et c'est l'un des leurs, vous le rappeliez, le jeune député de la gauche catalane républicaine Roger Torrent qui a été élu président du Parlement. Le bureau est aussi logiquement dominé par les partisans de l'indépendance et c'est ce bureau qui fixera les règles pour élire le futur président catalan. On sait que Carles Puigdemont entend se succéder à lui-même. Il est même le candidat des 2 premiers partis indépendantistes, mais leur accord ne précise pas si le président doit venir jusqu'à Barcelone pour son investiture, ce qu'il refuse, puisqu'il risque fort d'être arrêté pour sédition ou rébellion, notamment dès qu'il posera le pied en Espagne. Or, rien ne dit que les députés souhaiteront un président qui gouverne depuis Bruxelles, d'autant que Madrid a prévenu que cela signifierait le maintien de sa tutelle sur une Catalogne fatiguée de ce bras de fer incessant et de ses conséquences économiques. Le président du Parlement a maintenant 2 semaines pour organiser l'élection du futur président de la Catalogne. On notera qu'il a promis de rechercher le dialogue et le consensus, et terminer son discours en s'exclamant « Vive la démocratie et vive la Catalogne !» Rien à voir avec celui de sa prédécesseuse Carmen Forcadell, qui s'était conclue par un vibrant « Vive la République catalane !»
Marie-Pierre Véraud, le pape François à la rencontre du peuple Mapuche dans le sud du Chili. Le chef de l'église catholique a célébré là-bas une messe en plein air et dénoncé les violences, car la région est secouée par de virulents mouvements revendicatifs au sein de cette communauté indigène qui réclame l'accès à ses terres ancestrales. Reportage de notre envoyé spécial au Chili, Mathilde Imberti.
Une messe insolite pour le pape François au Chili, célébrée en terre mapuche, en langue mapuche en partie.
Mari, mari.
Sur les 150 000 fidèles présents, tous ne sont pas mapuche, mais habitent cette région du sud Chili, la plus pauvre du pays, martyrisée sous la dictature de Pinochet. Le pape dédie la cérémonie aux victimes.
Nous célébrons l'Eucharistie sur cet aérodrome sur lequel eurent lieu de graves violations des droits humains. Cette célébration, nous l'offrons pour tous ceux qui ont souffert et qui sont morts.
Aujourd'hui, la région est secouée par une série d'événements violents menés par des groupes radicaux mapuche pour récupérer leurs terres ancestrales. Incendies d'entreprises, attaques d'églises aussi ces derniers jours. Une violence inacceptable, déclare le pape.
Il est indispensable d'affirmer qu'une culture de la reconnaissance mutuelle ne peut pas se construire sur la base de la violence.
Le dialogue avance trop lentement entre les Mapuches et l'État chilien, constatent les observateurs. Le gouvernement de Michel Bachelet a commencé à restituer des terres, mais trop peu, aux yeux de cette communauté indigène.
Au Venezuela, la mort d'Oscar Pérez a été confirmée. Il était considéré par le pouvoir comme le criminel le plus recherché du pays. Il a été abattu lundi lors d'une opération policière. Oscar Pérez s'était fait connaître en juin dernier lors des manifestations contre le gouvernement de Nicolas Maduro, en attaquant notamment le tribunal suprême de justice à bord d'un hélicoptère dérobé. Le ministre vénézuélien de l'Intérieur, qui le qualifie de terroriste, précise que 6 autres personnes ont été tués au cours de l'assaut. Un assaut vécu quasiment en direct puisque Oscar Pérez avait diffusé plusieurs vidéos via son compte Instagram pendant l'opération policière. Les précisions à Caracas du correspondant de RFI au Venezuela, Julien González.
Il aura fallu attendre plus de 24 heures pour que les autorités confirment officiellement la mort d'Oscar Pérez et le ministre de l'Intérieur a été formel. Les terroristes, selon ses mots, sont à l'origine de l'affrontement et face à une agression qui mettait en danger la vie de policiers, le protocole pour neutraliser le groupe d'agresseurs a été activé. Un protocole remis en question par certains spécialistes des questions militaires qui ont notamment signalé l'usage disproportionné d'un lance-grenade anti-char au cours de l'intervention. Des ONG de défense des droits de l'homme ont quant à elles évoqué une possible exécution extrajudiciaire, ce à quoi les autorités ont répondu ce mardi en assurant que tous les efforts avaient d'abord été faits pour une reddition pacifique et négociée. Des explications qui n'ont pas manqué de raviver les tensions entre le gouvernement et l'opposition. La découverte de la planque d'Oscar Pérez aurait eu lieu, selon le ministre de l'Intérieur, grâce à des informations communiquées par des dirigeants politiques dans le cadre des négociations de paix entre les deux camps. Un tissu de mensonges a rétorqué ce mardi après-midi l'opposition majoritaire à l'Assemblée nationale qui a décidé d'ouvrir une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.
Temps pluvieux demain sur les trois quarts nord de la France. Le Nord et le Pas-de-Calais seront en vigilance orange pour vent violent, risque d'avalanche important sur les Alpes. Les températures 1 à 10 degrés le matin, 9 à 16 l'après-midi de l'Est à la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.